La soirée de ce soir rentre dans le cadre du pôle éducation du Collège supérieur. Bienvenue à ceux qui découvrent cette maison, qui est un lieu de réflexion, de formation, de débat. Et ce soir, c'est particulièrement un lieu de débat, puisque nous avons choisi comme sujet, sujet délicat, qui est celui de la liberté scolaire en France. Je vais présenter brièvement les deux invités. Je commencerai par Anne Coffinier, qui est à ma droite, ancienne élève de l'École normale supérieure et de l'ENA. Elle a été diplomate, mère de 3 enfants. Elle a constaté, 4 enfants maintenant, mes sources datent un peu. Elle a constaté l'absence de liberté réelle de l'enseignement, marquée par la carte scolaire, le collège unique. Et en réaction, elle décide de lancer en 2004 l'association « Créer son école ». Dont le but est d'encourager la création d'écoles libres, qu'on appelle hors contrat, qui sont hors contrat, et de leur offrir un soutien juridique, logistique, pour tous ceux qui souhaitent en créer. Aujourd'hui, donc, on compte en France environ 600 groupes scolaires indépendants, donc hors contrat. Cette association a rejoint en 2008 la Fondation pour l'école. Et un peu plus tard, donc Anne Coffinier a créé l'Institut libre de formation des maîtres pour former donc des enseignants, des instituteurs, institutrices pour ce type d'établissement. On a la joie d'accueillir ce soir Bruno Pousset, qui est chercheur en sciences de l'éducation, spécialisé dans l'histoire de l'école, du monde scolaire en France, qu'il s'agisse des politiques éducatives, qu'il s'agisse des rapports entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Ou l'histoire de l'enseignement privé en France. Il a d'abord été professeur de philosophie, puis maître de conférences en sciences de l'éducation, et il est actuellement professeur d'histoire de l'éducation à l'université de Picardie depuis 2007. Il a enseigné aussi à l'IUFM de l'Académie d'Amiens. L'école en France hérite, on le sait, d'une double tradition. D'une part, celle fort ancienne des écoles religieuses, qui peuvent être paroissiales, qui peuvent être congréganistes, qui sont marquées par des styles très divers, visant des milieux souvent très différents, quand on pense à l'histoire des écoles jésuites, des écoles salésiennes, des frères des écoles chrétiennes. Le dénominateur commun de ces établissements est ou était la vision chrétienne de la personne. Mais avec le repli des congrégations enseignantes, cette diversité est aujourd'hui regroupée par les directions diocésaines de l'enseignement catholique. La seconde tradition plus récente est évidemment la tradition de l'école républicaine, qui de son côté souhaite systématiser l'instruction par un maillage rationnel du territoire, selon une approche qu'on sait plus centralisée, fondée sur des valeurs laïques, que certains diront être des valeurs chrétiennes laïcisées, liberté, fraternité, etc. La coexistence de ces deux traditions a connu bien des aléas politiques, empoignades parlementaires ou tentatives de compromis. Qu'on pense au débat sur la loi Falloux, la loi Debré, plus récemment la loi Savary, etc. Et en même temps, on sait que la population française est très attachée à ce pluralisme, à une variété de l'offre éducative. Mais aujourd'hui, la situation s'est modifiée. De nombreux indices témoignent d'une crise de l'école publique, souvent impuissante à assumer la diversité sociale, produisant des laissés pour compte, désespérant de nombreux enseignants confrontés à des situations ingérables et parfois même tentés par des dérives idéologiques lorsqu'il s'agit non plus d'éduquer, mais d'arracher les enfants à leurs divers conditionnements. De leur côté, les écoles privées sous contrat, majoritairement catholiques, tendent à s'organiser selon un schéma de plus en plus administratif, avec des enseignants nommés à la manière du public. Et cette tendance se fait au détriment de la liberté pédagogique qui faisait la force et l'originalité de ces écoles. C'est ce que reconnaissait la loi Debré en parlant du caractère propre de chaque établissement. La nouveauté vient de la création, à l'initiative de parents, d'établissements hors contrat, on a dit 600 en France aujourd'hui, qui se dotent d'une grande liberté éducative tout en assumant un esprit cohérent en accord avec les familles qui les choisissent. Ces écoles, en général de taille plutôt modeste, affrontent d'autres difficultés, notamment pour la rémunération des enseignants, qui restent difficiles à recruter et à maintenir dans la durée. Quoi qu'il en soit, l'apparition de ce nouveau type d'établissement pose une question et a le mérite, finalement, d'interroger le duopole, d'un côté enseignement public centralisé, de l'autre côté enseignement catholique, de plus en plus centralisé. et peut-être de nous suggérer que d'autres voies sont possibles. Ce soir, nous éviterons de décider quelles sont de fait les meilleures écoles, parce que cette question est bien souvent oiseuse et elle n'a sans doute pas de réponse univoque. Mais nous nous interrogerons sur les enjeux et les limites des diverses approches de la question scolaire en France, à travers les apports, les analyses, sans doute contrastées, de nos deux intervenants. On va commencer tout de suite par une première question. Je vais simplement demander à chacun des intervenants de se présenter d'une manière un petit peu plus intime que j'ai pu le faire et de présenter l'histoire de son souci pour la question éducative en France. Alors je me tourne vers Bruno Pousset.
Bonsoir, il était prévu que ce soit d'abord Madame Coffinier, mais elle a souhaité me laisser la parole pour cette première intervention. Je lui laisserai la parole pour la seconde. Alors d'entrée du jeu, je voudrais dire une chose toute simple. Je n'ai pas de cause à défendre, puisqu'on m'a demandé en quoi mon parcours était au service d'une cause. Je n'ai pas de cause à défendre. J'essaie, moi, de mon point de vue, je suis enseignant-chercheur, j'essaie simplement de comprendre la réalité passée afin d'aider à mieux agir dans le présent. Autrement dit, je vais me situer en tant qu'historien, tel que je comprends et tel que je pratique l'histoire depuis une vingtaine d'années. Depuis 20 ans, en effet, j'ai commencé à faire de la recherche et essayer de comprendre le système éducatif, puisque c'est mon travail, je suis sur une chaire d'histoire de l'éducation, dans sa globalité. Et j'essaie de le faire dans les zones sensibles, là où ça fait mal, dans les zones de fracture, là où se font des rencontres improbables et où s'exacerbent des tensions qui sont parfois préjudiciables à tous, aux acteurs, aux usagers du système éducatif. Alors je donnerai trois exemples de travaux que j'ai menés. Le premier ne m'a pas valu que des amis, c'est un travail sur l'enseignement de la philosophie en France. J'ai eu le malheur de faire comprendre aux professeurs de philosophie qu'il fallait repenser autrement la manière dont ils présentaient leur enseignement, en montrant qu'ils s'inscrivaient dans un continuum historique et qu'ils n'étaient pas dans l'éternité des idées, que la dissertation des choses toutes simples avait une histoire, qu'on n'en a pas toujours fait et qu'on a commencé à en faire à un certain moment et que ça a été conflictuel, que les programmes n'avaient pas toujours existé, et qu'ils ont d'abord existé pour faire passer le baccalauréat, pour essayer d'être un peu plus égalitaire, et pas pour autre chose. Bref, qu'on avait inventé l'enseignement de la philosophie tel qu'il se pratique encore aujourd'hui, et qu'il fallait peut-être éviter de se crisper sur ce qui était un donné historique et que les choses évolueraient encore, si on veut répondre aux besoins et aux attentes du public, des élèves. Il était donc possible de faire de même. J'ai ensuite réfléchi pas mal sur les politiques éducatives, et notamment celles de la Ve République, afin de comprendre les choix qui ont été faits, comment on a fait le collège tel qu'on le connaît et tel qu'il n'existe pas en réalité, parce que la thèse que je soutiens, c'est qu'il n'y a pas de collège unique, contrairement à l'impression qu'on a aujourd'hui. Le lycée, l'université, on va sortir bientôt un livre sur la loi, première loi sur l'université, la loi Faure. Enfin, troisième dossier que j'ai travaillé d'un peu près, l'enseignement privé. J'ai eu une intuition après l'affaire Savary, donc ça remonte déjà loin, et pour beaucoup d'entre vous, ça ne veut pas dire grand-chose parce que vous étiez à peine né ou pas né du tout. Donc en 84, je me suis dit qu'il fallait sortir de ce combat délétère entre les bons et les mauvais, entre les laïcs et les cathos, comme on disait. Que ce combat était dépassé, mais personne ne s'en était vraiment rendu compte, il était dépassé depuis 1959. Et pour cela, il fallait en faire l'histoire, et au moins comprendre ce qui s'était passé, et éviter de partir d'un mythe. Parce que chacun avait son mythe. L'enseignement catholique disait, moi j'étais favorable à la loi Debré. Quand vous regardez d'un peu près, ils étaient totalement opposés. Les laïcs, évidemment, disaient qu'ils étaient opposés à la loi Debré, ce qui était le cas, là il n'y avait pas d'erreur de mémoire, si je veux dire, mais ce qu'il fallait, c'est passer de la mémoire à l'histoire. Et c'est toujours gênant pour tout le monde, parce que ça veut dire qu'on est obligé de se déplacer. Alors j'ai pratiqué ce qui ne s'était jamais fait, ça peut vous paraître inouï, mais c'est ainsi. J'ai essayé de croiser quelque chose de tout simple, c'est-à-dire j'ai fait le métier d'historien, croiser les sources publiques et les sources privées, en allant faire ouvrir des archives que personne n'avait regardées, qui attendaient le public, qui attendaient les chercheurs. Des archives qui sont celles de l'enseignement privé, des archives diocésaines, je suis allé à Lyon par exemple, j'ai découvert des choses fort intéressantes dans votre archevêché, mais aussi les archives de la Fène. Ah, rarement on va dans les deux, hein. On est de l'un ou de l'autre, mais on ne va pas dans les deux. Les archives du SNI, alors encore pire, vous rendez-vous compte. Des archives privées, par exemple, à l'époque elles étaient encore privées, celles de Michel Debray, que personne n'avait exploré sur cette question-là. Les archives présidentielles qui donnaient des informations aussi très intéressantes. Bref, essayer, ça m'a permis de comprendre que la loi, finalement, a été un compromis. Et c'est révélé, justement, une grande loi, parce qu'elle était un compromis qui ne satisfaisait, au point de départ, personne. La première chose qu'ont fait les responsables de l'enseignement catholique en janvier 1960, j'en sais quelque chose, non pas parce que j'étais déjà dans la course, mais parce que ça se passait dans ma propre ville, c'était d'organiser une réunion de tous les directeurs diocésains de France pour dire qu'ils ne signeraient pas de contrat d'association. Heureusement, de mon point de vue, il y a des gens qui avaient un sens de l'histoire, qui se sont appelés les cardinaux et archevêques de France, sur pression de Michel Debray, qui les ont obligés de signer et de se mettre à entrer dans cette perspective-là. La Fène aussi, condamnée, bien entendu, avec le mois de juin 1960, mais quand vous regardez de plus près, vous apercevez que les plus lucides se rendaient compte que c'était une impasse. Et puis une partie de la majorité politique qui s'est vue imposer un choix qui n'était pas le sien. De Gaulle l'ayant dit, si vous n'êtes pas d'accord, je change de gouvernement. C'est à prendre ou à laisser. Eh bien, ils ont pris. Pas contents, mais ils ont pris. Bref, ce qu'on peut aussi découvrir quand on fait l'histoire, c'est que l'histoire se fait avec des acteurs. Des acteurs qui ont le courage parfois de faire des choses qui vont à contre-courant de ceux qui les soutiennent. De Gaulle le premier. Et rappelez-vous qu'à l'époque, c'était pas amusant, c'était la guerre d'Algérie. Il y avait quelque chose de plus important quand même. Michel Debray, effectivement, aussi. Les cardinaux, notamment celui de Lille, mais aussi celui de Rennes, celui de Lyon un petit peu aussi. Le secrétaire général. Alors à l'époque, on l'a mis au placard, le vrai secrétaire général, mais dans l'enseignement, dans les évêques, dans l'Église, on ne met jamais les gens au placard, on ne peut pas les nommer inspecteur général, donc on nomme quelqu'un d'autre pour pour aider. Mais en fait, ce n'est plus lui qui dirigeait la maison. Bref, tous ont essayé de construire quelque chose qui était la marque de se dire « il faut faire la nation ensemble et non pas séparément ». Eh bien, de mon point de vue, ça, c'est un succès, même s'il y a un certain nombre de problèmes dont on parlera certainement.
Merci pour cette perspective historique. Et je passe tout de suite la parole à Anne Coffinier.
Merci. Alors, vous avez commencé en précisant que vous n'aviez pas de cause à défendre. Et au risque de vous surprendre, moi non plus, je ne dirige pas un syndicat du hors contrat. Je m'occupe effectivement d'essayer de promouvoir la liberté scolaire. Mais dans toutes ses formes, c'est-à-dire que la liberté scolaire, le nom qu'on lui donne dans l'école publique, c'est la liberté pédagogique, c'est-à-dire la liberté des professeurs de choisir les méthodes, les programmes, les approches qui leur semblent les plus adaptées à l'objet qu'ils ont à enseigner et aux finalités qu'ils souhaitent poursuivre. Dans l'enseignement sous contrat, c'est vrai que ma perspective n'est pas celle d'un historien, bien que ce soit ma formation d'origine. Ma perspective n'est pas de savoir quelles étaient les intentions des gens qui ont pu concevoir la loi Debray. Effectivement, quand on lit le remarquable ouvrage de M. Pousset, on se rend compte que les intentions des gens qui ont fondé la loi Debray étaient extrêmement contradictoires. C'est-à-dire que dans le camp de l'enseignement catholique, qui n'était d'ailleurs pas tellement constitué en tant que tel, même s'il y avait un secrétariat général déjà à cette époque, enfin, il y avait une immense variété au sein de l'enseignement catholique. Et dans le camp de l'école publique, il y avait des tendances extrêmement contradictoires. Donc, de toute manière, il n'y avait pas d'accord possible au sein de chaque tendance. Et donc, c'est effectivement une volonté où le Premier ministre et le Président de la République ont eu un rôle très important, où il y a eu des jeux de pouvoir compliqués entre les évêques, certains syndicats, bref. Un jeu compliqué a effectivement, comme disait M. Pousset, permis à un compromis d'être adopté, mais d'être adopté au forceps. Et là, pour le coup, ma qualité de diplomate peut me donner un type de lecture un peu différent. C'est que les compromis et la loi Debray, de ce point de vue-là, pour moi, est vraiment un parangon en la matière. C'est que le compromis repose très souvent sur des ambiguïtés de vocabulaire. C'est pas qu'on est arrivé à se mettre d'accord sur une sorte de solution médiane. C'est souvent qu'on est arrivé à juxtaposer des mots qui, en fait, relève de logiques internes tout à fait inconciliables. Après, le pouvoir, par rapport à cette réalité instable, on revient alors en matière juridique dans la vie, si j'ose dire, civile ou administrative, le pouvoir, ou européenne par exemple, le pouvoir passe au juge. Et c'est exactement ce qu'on voit, par exemple, pour l'application des traités européens, c'est que les traités sont souvent soit tellement génériques ou tellement contradictoires en eux-mêmes que le pouvoir est remis aux juges qui vont en faire l'interprétation. Et bien là, c'est un petit peu semblable. On a juxtaposé des considérations qui sont intrinsèquement issues de visions contradictoires, et donc on ne savait pas très bien ce qui allait sortir de l'application réelle de cette loi Debré. Par exemple, quand on parle à la fois de liberté de conscience et de caractère propre, quand le gouvernement s'applique à ce que le caractère propre soit défini dans des textes qui ne sont pas contraignants, donc dans des débats lors de l'adoption de la loi et dans un préambule, si je me souviens bien, mais en tout cas pas dans le texte de la loi Debré lui-même. Donc on va se retrouver avec des équilibres qui vont être complètement mouvants et qui finalement vont dépendre des rapports de force qui vont s'instaurer par la suite. Or, tout ça se passe à une époque où l'Église elle-même est prise en des glissements très importants, qu'on peut apprécier ou pas apprécier. En tout cas, l'Église est en plein mouvement, puisque c'est à l'époque de Vatican II. Et dans le même temps, la France et l'institution universitaire et l'état de la société est aussi en plein mouvement, puisqu'on se retrouve très rapidement dans la période de mai 68. Donc, on a accouché d'une réalité très riche, notamment parce que comment dire, composée de tendances extrêmement contradictoires, et qu'on aurait pu tirer dans un sens comme dans l'autre au regard des rapports de force qui se sont instaurés. Alors, par rapport à ça, quel est mon itinéraire ? En faisant l'école normale supérieure, j'aurais dû normalement enseigner. Mais j'étais très frappée par le désarroi de mes condisciples qui, après avoir fait des études avec une certaine exigence de cohérence intellectuelle et de désir de transmettre cette exigence et cette passion à des élèves, se trouvaient en fait extrêmement désarmés, frustrés face à l'état même du lycée en particulier et de la tâche qui leur incombait dans la vie réelle, si vous voulez. Et il y avait un sentiment que l'école publique était profondément dénaturée, sans forcément très bien savoir pourquoi et comment. Mais en tout cas, ils étaient otages d'un système qui ne savait pas très bien que faire d'eux-mêmes. Ces jeunes normaliens qui étaient envoyés un peu au casse-pipe, de préférence dans des endroits où ils ne pouvaient rien apporter, et où ils étaient complètement dépassés par la situation. Bon. Donc, quelques jours après mon entrée, je suis allée voir le directeur, je lui ai dit « ça ne va pas du tout, il faut changer tout ça, je vais faire Sciences Po ». Alors, il m'a dit, c'est comme vous voulez, je vous coupe les vivres si vous ratez. Et c'est comme ça que je suis partie dans l'idée d'essayer de comprendre, là aussi, comme M. Pousset, mais sous un angle différent, sous un angle politique et institutionnel, comment ces décisions se prenaient et comment on en était arrivé à une sorte d'administration de l'éducation nationale qui me semblait être opprimante et oppressive, d'être une espèce d'outil qui, au lieu de faciliter, donner des conditions d'enseignement facile pour les professeurs, semblait créer plutôt des problèmes et des contraintes et un carcan qui était difficile à supporter. Et donc c'est comme ça que j'ai fait l'ENA. En faisant l'ENA, j'ai acquis assez rapidement la conviction que c'est difficilement au sein d'un État public, d'une administration qui a un tel culte jacobin de la centralisation, et un État qui a cet état d'esprit qu'on apprend à l'ENA, je vois assez mal comment on pouvait respecter les libertés qui me semblaient essentiel. Alors pourquoi ces libertés me semblaient essentielles ? C'est pas par un libéralisme échevelé que j'aurais acquis dès la tendre enfance. Pas du tout. C'est simplement que l'acte d'enseignement me semble requérir une liberté, la liberté de rechercher la vérité, la liberté d'étudier les causes des choses et de déployer les conséquences, et que cette liberté qui est inhérente à l'acte d'enseigner me paraît assez difficilement être mis sous tutelle, entre guillemets, et être trop encadré. Et par exemple, le statut qu'aujourd'hui l'éducation nationale veut donner à l'enseignant, un statut d'agent d'exécution, peut-être que le terme est un peu exagéré, mais lorsque dans les IUFM, il y a une réforme qui a été introduite, si je me souviens bien, à l'époque du précédent gouvernement, donc de droite, il y a une épreuve absolument invraisemblable qui s'appelle « Agir en fonctionnaire de l'État de manière éthique et responsable ». Donc c'est une des épreuves de recrutement pour les professeurs. Agir en fonctionnaire de l'État de manière éthique et responsable. Donc là, vous voyez, pour moi, ça c'est je crois que là, il y a un problème quand l'enveloppe administrative conduit à sortir de son orbite légitime l'acte même d'enseigner. Et c'est pour ça que je suis si attachée à la liberté scolaire. Donc c'est en faisant ce travail d'enquête un petit peu progressif que je me suis rendu compte qu'il me semblait y avoir une sorte de risque pour la liberté nécessaire à l'acte d'enseignement, aussi bien dans l'école publique que dans l'école privée sous contrat, qui avait plus ou moins petit à petit repris les mêmes carcans sur son dos. Et donc ça me paraissait très important pour la vie même de l'esprit, et puis pour l'avenir en l'occurrence de notre pays, d'essayer de redévelopper des espaces où il pouvait y avoir une liberté d'enseignement. Et mais dans le même temps, parce que je suis très pragmatique de tempérament, je n'ai jamais conçu qu'il ne puisse avoir qu'une solution qui serait le hors-contrat. Si vous voulez, ma formule, ce n'est pas hors du hors-contrat, point de salut. Ma formule, c'est simplement que chacun, là où il est, ait cette exigence de la liberté qui est propre à l'acte d'enseigner. Et donc, il déploie de manière responsable et ambitieuse cette liberté où qu'il soit, dans le public, dans le privé sous contrat, dans le privé hors contrat, à l'école, à la maison, où qu'on soit, il me semble que l'acte d'enseigner requiert cette liberté.
Merci. Donc l'analyse qu'on vient d'entendre pointe comme difficulté centrale de l'éducation en France, au fond un excès de centralisme, une approche bureaucratique qui contamine même les établissements sous contrat à l'association. Alors donc on est rentré déjà dans le cœur des difficultés, donc je vous laisse Bruno Pousset répondre à cette analyse.
Il y a plusieurs éléments, je voudrais d'ailleurs revenir sur votre présentation historique. Je ne suis pas totalement d'accord avec la manière dont vous avez présenté les choses. Il n'y a pas une continuité, me semble-t-il, entre l'enseignement chrétien ou catholique, puisqu'il était, les protestants ne pouvaient pas, sous l'Ancien Régime, exercer leur droit à l'école, et puis l'enseignement privé du XIXe siècle. C'était pas un enseignement privé sous l'Ancien Régime, c'était l'enseignement tout court. Il n'y avait pas d'autre choix, puisque l'État ne s'intéressait absolument pas à la question éducative. Il ne s'y intéressa qu'à quelques moments, lorsqu'en 1762, il a interdit les jésuites. Il y a eu quelques obligations qui ont été définies concernant les écoles paroissiales, mais c'est l'Église qui était chargée de la mettre en œuvre. Tout le monde était chrétien, le problème ne se posait pas. On n'allait pas débattre pour... La question s'est posée lorsqu'au XIXe siècle, il y a eu... Bon, il y a les Lumières, il y a la Révolution qui est passée par là, évidemment, où il y a eu des tendances contradictoires. Et vous avez eu l'État qui a décidé de former ses cadres. Il ne faut pas oublier que l'école en France est née par le haut et non par le bas. Elle est née, les grandes écoles, c'est ça d'abord. L'ENS, dont on a un beau fleuron ici. Nous avons le Polytechnique. Et puis même avant, sous l'Ancien Régime, vous avez eu quelques écoles, comme l'école de Caire, l'école des mines, par exemple. Vous avez eu ça. Et donc, on a commencé à faire par le haut l'école, avec les lycées. Et les lycées, ça concernait très, très peu de monde. Et l'État n'investissait pas beaucoup d'argent dans les lycées. Et il avait tellement peu d'argent, parce que Napoléon faisait la guerre, qu'il a laissé les communes se débrouiller pour les écoles primaires. C'est pour ça que ça vient tout simplement de là. Pourquoi les écoles communales sont restées toujours au niveau des villages, etc. Et contrairement à l'image qu'on a, certes, il a posé qu'il pourrait être enseignant, il fallait faire partie de ce qu'on appelait l'université à l'époque, mais il a laissé exister les établissements privés qui s'étaient créés, des pensions en tout genre. Enfin, il en fallait parce qu'il n'avait pas les moyens et il ne voulait surtout pas investir trop dans l'éducation, sauf pour la petite élite qui était celle des lycées. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et ce n'est que peu à peu, dans les années 1830-1850, que s'est développée l'idée qu'il fallait créer un type d'enseignement qui serait davantage indépendant de l'État. Pour quelle raison ? Parce que l'Église n'arrivait plus à maîtriser les choses. Il ne faut pas oublier que pour Napoléon, l'Église, c'était son adjointe. Hein. Donc il y avait les aumôniers qui faisaient régner dans les lycées la bonne morale, etc. Progressivement, ça s'est un peu délité, donc certains ont revendiqué. Alors, il y aura deux courants. Il y aura un courant qui est lié avec Guizot, libéralisme, etc., mais libéralisme du 19e, c'est-à-dire l'idée d'entreprendre. C'est la fameuse loi Guizot, mais la loi Guizot, c'est aussi la loi qui permet de créer les écoles primaires. faut pas oublier tout ça. Donc vous avez cette double structure et puis des gens du privé qui vont se lancer. Ce qu'ils souhaitaient simplement, c'est pouvoir créer des établissements sans autorisation. Ils existaient avant, ils pouvaient exister avec autorisation. Maintenant, ils voulaient pouvoir exister sans autorisation de l'État. C'est ce qui s'est fait progressivement jusqu'en 1875. Et c'est ce qu'on appelle la liberté d'enseignement depuis cette date-là, qui n'a jamais été remis en cause finalement, même pour ceux qui étaient opposés à l'école confessionnelle catholique. Personne n'a jamais été en France opposé à la liberté d'enseignement. La raison est simple, c'est qu'une partie des gens du public travaillaient dans ces écoles-là. Ça arrondissait les fins de mois, il ne faut pas l'oublier. Et oui, il y a eu des interdits, on a dû empêcher des agrégés de Paris de travailler dans les écoles privées qui s'étaient créées partout en France, à Paris d'abord et puis ailleurs aussi. Donc vous avez là, si vous voulez, une réalité qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus contrastée. Et dès le 19e siècle, il y a une multitude de petites écoles. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle ? Les écoles privées dites laïques, c'est-à-dire non confessionnelles, ont progressivement disparu parce que l'Église a été suffisamment forte pour imposer ces écoles. Et ce qui restait, sauf quelques-unes, il y avait très peu d'écoles non confessionnelles qui subsistaient au début du XXe siècle. Il y a eu un mouvement qui a relancé ces écoles-là. C'est tout le mouvement de l'éducation nouvelle. Alors là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il fallait interroger le fonctionnement extrêmement rigide et hiératique du système éducatif du 19e, début du 20e siècle. Et vous avez eu des gens qui se sont immiscés, qui ont créé, et rappelez-vous quand même, Freinet, c'est pas spécialement un catholique, hein, mais Freinet, il a été mis à la porte de l'école publique à un certain moment, et il a dû créer une école privée. Donc, comme il était évidemment membre des syndicats de l'enseignement public, les laïcs de l'époque ne pouvaient pas s'opposer à la liberté d'enseignement puisqu'elle était nécessaire. Sans Puy, par exemple, qui est une école libertaire, ça existait aussi. Et ça, c'est dans les années 1880. Il ne faut pas oublier des choses comme ça. Donc, et puis, qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle ? C'est moins des écoles. La fin des pensions, des petites pensions. Vous aviez le prof, il était prof au lycée ou au collège municipal, et pour s'arrondir ses fins de mois, qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait des pensionnaires chez lui, c'est-à-dire les élèves venaient chez lui pour passer la soirée, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Donc vous avez aussi de très nombreux petits cours qui s'étaient créés, des chauffoirs, puisqu'il fallait réviser le bac, on l'apprenait par cœur à l'époque, donc il fallait des lieux d'entraînement. Ça existe toujours aujourd'hui, hein. Donc, il y a des structures qui étaient déjà là en place et qui ont perduré et qui perdurent. Donc, je crois que ça, c'est une réalité importante. Alors, on parle toujours de crise de l'école publique, mais il y a toujours eu une crise de l'école publique. En 1905, c'était la crise. On n'en pouvait plus de faire des cours de 2 heures. On a remplacé les cours de 2 heures par des cours de 1 heure. Au 19e siècle, c'était la crise. Il ne faut jamais oublier, la crise, ça a toujours été le cas. Donc il faut éviter de croire qu'aujourd'hui on est dans une situation extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais au 19e siècle, combien d'enseignants, d'instituteurs ont été en prison parce qu'ils battaient leurs élèves. Et pourquoi ? Parce qu'ils étaient ivrognes. Ben, si vous pensez que ça marchait bien à l'époque, il faut quand même y regarder d'un peu plus près. Deuxièmement, on vante autrefois, on savait l'orthographe. Vous avez déjà lu les lettres qu'ont écrit les poilus en 1914 et qu'on a retrouvées grâce à la censure républicaine d'un État jacobin, ben vous avez parfois bien du mal à comprendre ce qu'il y a dedans. Parce que c'est écrit dans un langage, c'est dans une orthographe totalement ingérable. Je vous rappelle quand même qu'on ne pouvait pas passer de soi-même le certificat d'études, il fallait être autorisé. Et vous n'étiez présenté que vous étiez certain de réussir. On imagine très mal la situation d'aujourd'hui. Une grande partie des élèves de lycée n'allaient pas au baccalauréat. C'était pas utile, il y avait du travail. Donc on exerçait des métiers sans avoir besoin du diplôme. Donc très peu avaient le diplôme du baccalauréat. C'était vraiment Et ce baccalauréat servait à quoi ? Eh bien, essentiellement, aller dans les grandes écoles. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Et deuxièmement, dans le bac général, section S aujourd'hui. Et deuxièmement, ça servait à quoi ? Eh bien, ça servait à aller dans les écoles de droit, qu'on n'appelait pas des facultés, je vous rappelle. Dans les écoles de droit et dans les écoles de médecine. À côté de ça, vous aviez la faculté de lettres où il n'y avait pas d'étudiants. Et la faculté de sciences, c'est pareil, il n'y avait personne. Donc on a une structure qui était toujours interrogée. Alors, je reviens sur ce que dit tout à fait avec juste titre Anne Cofinier concernant le fait que le pouvoir est laissé aux juges lorsque il y a une loi, la loi de Bray, c'est une loi très courte, 13 articles, tout était renvoyé aux décrets, aux arrêtés, etc. Tout le monde savait qu'il y avait des problèmes. Et vous avez bien remarqué à juste titre qu'il y avait des mots ambigus. Le mot caractère propre est dans la loi, c'est dans l'article 1. Simplement, il y a eu un tel débat. Il ne faut quand même pas oublier que le ministre en a démissionné. Que la loi n'aurait jamais dû être votée. Vous avez déjà vu une loi, vous, dont le principal protagoniste, le ministre, démissionne le matin même du débat de cette loi. C'est quand même assez exceptionnel, cette situation-là. Et à midi, il y avait un nouveau ministre qui s'appelait Michel Debray, pendant 15 jours, parce qu'il avait décidé qu'elle serait votée. Et j'ai lu, moi, c'est très intéressant, les archives, les petits papiers qui circulaient, parce qu'ils ont été conservés, à l'Assemblée nationale, qui essayaient de pousser les autres ministres à démissionner pour que le gouvernement tombe et que là, il n'y ait plus de possibilité de voter la loi. Donc ça a été très dur, si vous voulez, cette affaire-là. Alors après, il y a ambiguïté. Tout à fait. Il y a forcément ambiguïté. C'est ambigu parce qu'on veut éviter la guerre civile. On en était là, hein, quasiment. Il ne faut pas l'oublier. Avec des grandes manifestations, etc., meetings au cirque, etc. On était dans cette situation-là. Mais il y en avait une autre de guerre en même temps. La guerre sur la guerre dite scolaire était une guerre gentille quand même. Mais il n'empêche qu'elle existait et qu'elle bloquait tout parce qu'elle empêchait la rénovation de l'ensemble du système éducatif. Et alors là, contrairement à ce qu'on peut dire, il y a eu une rénovation du système éducatif à partir de là. Mais elle a été possible parce que cet obstacle avait été vaincu avec des gens que je trouve de bonne volonté. Et cette ambiguïté a fait qu'effectivement, dans les 20 ans ou 30 ans qui vont suivre, vous allez avoir des alternances, vous allez avoir... On va la pousser dans un sens, on va la pousser dans un autre sens, bien entendu. Forcément, c'est en fonction... Ce genre de loi est lié aux majorités politiques, ce qui rend évidemment pas les choses forcément toujours faciles à gérer. Et dernier point, alors le fait... Je reviens sur votre parcours. Être à l'ENS, c'est pas simple quand on découvre la réalité du système éducatif. Ça, c'est vrai. Et je comprends. Parce que nous ne savons pas gérer cette affaire-là. On fabrique une élite et on l'envoie dans un collège en classe de 6e, alors que certains ont une compétence extraordinaire en latin, en grec, etc. Je prends l'exemple des humanités à juste titre. Et ils sont totalement décalés. Ils sont d'autant plus décalés, et encore plus aujourd'hui. Moi, j'ai des étudiants, des collègues qui sont anciens, qui viennent du même endroit que vous, mais ils se sont bien gardés d'aller dans l'enseignement secondaire. Hein. Il y en a un qui était tout fier, il m'a dit « Oh oui, moi j'y suis resté un mois, c'était quand même... » Les autres, ils ont échappé, parce qu'ils ont été à terre, parce qu'ils sont entrés dans l'université tout de suite. Parce que cette école-là est inadaptée, elle n'est pas faite pour former des enseignants. Elle n'est plus faite pour former des enseignants. Et il y a un décalage complet entre ce qu'on lui demande et... Tout le monde le sait très bien. Ce que vous avez, votre parcours n'est pas typique du tout. Il y en a une bonne partie qui va à l'ENA, bien entendu. Parce que c'est une voie de recrutement. Mais c'est comme ceux qui font S. Hein. C'est la même chose, au carré, disons. Si je puis me permettre l'expression. Une partie des élèves qui font S, vous n'allez tout de même pas dire qu'ils aiment les maths. Hein. Mais ils ne les aiment pas du tout. Simplement, ils savent que pour réussir dans les meilleures écoles, il faut faire S. Comme autrefois, qu'est-ce qu'il fallait faire avant 1960 ? Il fallait faire philo, je vous rappelle. Il y a une rupture à ce moment-là. Mais les élèves de l'époque n'aimaient pas plus la philo qu'ils n'aimaient les maths, sauf une petite minorité. Donc il faut savoir dans quel segment on se trouve. Le segment des gens totalement adaptés au système, finalement, pour les littéraires, c'est les futurs cagneux. Hein. Quand ils viennent de L, aujourd'hui, parce qu'une partie des cagneux, vous le savez, viennent de S, ce qui est quand même un peu paradoxal dans notre système. Mais c'est comme ça. Et une partie... Les autres eh bien, sont partis dans les écoles d'ingénieurs, etc., ou les écoles de commerce, où là, les voies sont plus faciles, si je puis dire. Ou Sciences Po, etc., mais c'est tout à fait logique. Parce que c'est une école qui n'est plus faite pour former ceux des enseignants, c'est vrai.
Mais ce que vous dites de l'ENS n'est-il pas généralisable à l'ensemble du système, qui précisément n'arrive pas à rejoindre les difficultés réelles du terrain, qui ne sont pas les mêmes dans une banlieue, à la campagne, en centre-ville, et qui du coup répond par un moule uniforme qui ne correspond plus à rien. Enfin, je me fais le relais de ce que Anne Coffigny a suggéré à l'instant.
Oui, alors là aussi, je crois que c'est une image qui est fausse. Le moule n'est pas uniforme. Alors, vous avez bien dit tout à l'heure, l'enseignement sous contrat, c'est rapproché, c'est centralisé en clair. Mais il faudrait ajouter que l'enseignement public, c'est décentralisé, déconcentré. Il y a quand même une réalité fondamentale. Une partie des décisions maintenant ne sont plus du tout prises à Paris. Il faut quand même le savoir, depuis 1983, c'est pas d'aujourd'hui. Donc le système s'est transformé de ce point de vue-là. Et moi je crois, effectivement, il y a beaucoup de problèmes, mais comme dans tout système, quand vous allez acheter un ordinateur qui ne marche pas, vous n'allez pas dire « ça y est, il y a une crise dans l'entreprise qui fabrique les ordinateurs ». Et pourtant, ça ne marche pas toujours, vos ordinateurs. Votre machine à laver, parfois, arrive à ne pas marcher, parce qu'on vous a vendu un produit qui n'était pas bon dès le départ. Mais c'est bien un problème d'organisation de l'entreprise, ça. Mais là, on ne dit rien. En revanche, sur le système public, qui est énorme, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces enfants ? Il faut bien faire quelque chose avec eux. Il y a quand même, je pense, des progrès dans l'adaptation, dans une déconcentration et décentralisation. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Moi, je crois qu'il reste essentiellement une chose à faire, c'est de donner, et alors là, je vous rejoins quand vous parlez de la liberté, etc., de donner aux acteurs une pleine responsabilité. Remarquez, en fait, les enseignants ont pris depuis très longtemps leur responsabilité. Vous savez très bien qu'une partie d'entre eux applique de façon lointaine les programmes, et ils ont raison, puisqu'ils sont infaisables. Moi, j'ai siégé au Conseil supérieur de l'éducation et un jour, j'ai dû traiter tous les programmes de troisième. En regardant, je me suis dit, mais jamais moi-même, je ne pourrais traiter tout cela. C'est pas possible. Donc, il y a effectivement, la représentation et la réalité. Mais c'est vrai que le système pourrait s'effondrer, mais ça fait très longtemps qu'on dit qu'il va s'effondrer. En revanche, c'est vrai qu'une liberté plus grande laissée aux acteurs est absolument indispensable. Alors, il y a des obstacles qui empêchent cette liberté, mais elle me paraît fondamentale.
Alors, vous avez abordé tellement de points que c'est compliqué pour moi de reprendre. Mais parmi les idées que vous avez développées, il y a l'idée que l'école, vous avez dit, on a commencé à faire par le haut l'école. Et vous avez cité les grandes écoles qui ont été créées à l'époque napoléonienne. Alors, on a commencé à faire par le haut les grandes écoles d'élite, mais comme le roi avait déjà commencé à une certaine époque, mais comme vous le disiez vous-même, ça touche qu'une minorité, hein, le haut du système justement, mais pour tout le reste du système, ça n'a précisément jamais été créé par le haut, comme vous le disiez vous-même, jamais été créé par l'État, sauf pour quelques cas très très subsidiaires, donc l'État pour le coup appliquait la logique de la subsidiarité, il intervenait quand il y avait une défaillance de la société civile qui ne s'organisait pas, pupille de la nation, des cas très très spécifiques. Donc je crois que historiquement, bon, bien sûr vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, bien que vos travaux ont quand même plutôt porté à partir du 19e, si je m'abuse. Vous avez aussi travaillé sur la période qui précède le 19e ou pas, je ne me souviens pas de ça. Sur les jésuites. Enfin, ils ont été interdits assez rapidement. Donc en fait, quand même, dans la période qui précède le 19e, on a des écoles qui viennent de l'initiative locale, qui ont une extrême variété, et c'est ça justement l'intérêt. Hein. Il y a des écoles congréganistes, il y a des écoles paroissiales, il y a des écoles créées par le curé, il y a des écoles, toutes sortes de congrégations qui s'entendaient d'ailleurs formales et qui se faisaient une concurrence effrénée pour développer leur charisme et attirer les meilleurs élèves. Quand on dit l'Église détenait l'enseignement, pour moi c'est un peu un mot. C'est un abus de langage, parce qu'en fait, tout était ecclésial. C'est-à-dire, tout le monde était catholique, ou à peu près. Il y avait les protestants qui avaient leurs écoles. Vous n'avez pas rappelé, mais vous le dites dans vos livres, qu'ils ont fait le choix de rendre, entre guillemets, leurs écoles à l'État, c'est-à-dire qu'ils n'ont, d'être intégrés, alors que les catholiques ont fait le choix de ne pas l'être. Mais bon, grosso modo, la plupart des enseignants, des professeurs, des parents étaient catholiques et aspiraient assez naturellement un enseignement qui le soit aussi. Donc, on avait un enseignement très varié, qui était catholique, mais comme on fait de la prose sans le savoir, enfin, je veux dire, c'était une non-question. Il y avait quelques établissements innovants, mais ça a plutôt été le cas effectivement avec le développement de l'éducation nouvelle. Et donc, quand vous dites que l'école a été faite par le haut, l'école, dans sa dimension extrêmement limitée des écoles pour former des corps particuliers, école polytechnique, pont et chaussée, etc., oui, mais le reste, non. Enfin, je ne vois pas historiquement comment on peut dire ça. Ensuite, bon, la fameuse question, a-t-on toujours connu la crise ? Bon, c'est vrai qu'on trouve toujours des textes littéraires dès le Moyen-Âge, ou plutôt dès l'Antiquité, hein, qui expliquent que les choses vont fort mal et que vraiment c'est un scandale de rester dans un tel état de délabrement. C'est vrai. Mais c'est aussi le meilleur moyen pour jamais traiter les problèmes, en disant que la crise n'est pas nouvelle et après tout, on va de crise en crise et que c'est le fonctionnement de l'humanité. Je crois qu'il y a une vraie crise aujourd'hui. Et je me souviens d'ailleurs de mon désarroi lorsque, tout début du lancement de la Fondation, j'étais allée rencontrer le dirigeant de ce qui s'appelle dirigeant chrétien, dirigeant et entreprise chrétienne, ou entrepreneur et dirigeant chrétien. Et il m'avait fort mal reçu, il était extrêmement crispé. Alors au bout d'un moment, je lui ai dit, mais quel est le problème ? Est-ce que vous êtes en désaccord avec ce que je fais vraiment ? Il me dit, vous comprenez, quand on a des propos extrémistes, on se disqualifie soi-même. Alors je lui dis ça, je suis bien d'accord avec vous, mais alors de quoi s'agit-il ? Vous dites que l'école est en crise. Ah oui ! Alors voyez-vous, on en est toujours un peu à ce problème-là. Et heureusement quand même, et d'ailleurs je pense que vous ne le pensez pas vraiment, mais heureusement aujourd'hui, on a quand même la chance extrême d'avoir une reconnaissance assez large de la réalité de la crise. Hein, de gauche à droite, du public au privé sous contrat ou hors contrat, on reconnaît la profondeur de la crise. D'abord, mal-être des élèves, naissance de nouvelles pathologies comme la phobie scolaire, décrochage massif, hein, entre 150 et 200 000 élèves par an, c'est quand même pas rien, perte de motivation très forte, tout cela quand même, bon, chiffre important de difficultés, de lacunes fortes. Alors bien sûr, on peut toujours dire que l'orthographe, après tout, c'est la science des sceaux et qu'elle n'a aucune importance, de même pour la grammaire ou le calcul mental, on peut tout dire. Mais on se rend compte que la question de la rigueur, la question de la capacité du travail, ce sont quand même des choses importantes et on voit bien qu'elles se dégradent. On voit bien que la capacité à développer avec finesse et précision en raisonnement se dégrade. Alors, ça ne choque pas certaines personnes qui raisonnent en termes relatifs. Pour certaines personnes, ce qui est important, c'est que son enfant ait un avantage comparé par rapport aux autres. Alors à la limite, si le niveau général baisse, mais que son enfant est dans une école qui est plutôt dans le haut du panier, ça suffit. Même si son enfant est, entre guillemets, à un niveau beaucoup plus bas que ce qu'il pourrait être dans l'absolu si on compare, par exemple, la génération précédente. Bon, je ne veux pas jeter un pavé dans ma propre mare, mais si on compare la qualité intellectuelle des normaliens des années 30 avec la qualité intellectuelle des normaliens d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'hésiter deux secondes, si vous voulez. C'est une différence abyssale. Donc c'est bien qu'il se passe quelque chose, et on sait très bien ce qui se passe. C'est la notion même de savoir qui est largement démonétisée, l'autorité elle-même qui est démonétisée, l'appétence pour la vie intellectuelle en ce moment est largement démonétisée. Les meilleurs d'entre nous ou d'entre nos enfants ne se destinent pas à la profession d'enseignement. Ils vont dans les écoles, les grandes écoles ou les écoles de commerce, je ne sais pas où, ou quand ils ne partent pas à l'étranger. Donc on voit très bien que la notion même de donner sa vie pour la recherche, le métier même de chercheur, est très largement décrié, démonétisé aujourd'hui, alors que c'est le plus beau métier du monde. Comme vous le décriviez au début, être chercheur, c'est chercher à comprendre. C'est magnifique, il n'y a rien de plus important que ça. On voit aujourd'hui une recherche largement démonétisée, et un système global de valeurs qui n'a pas l'air tellement retourné vers la notion de recherche de la vérité des choses, qu'elle soit dans le passé, dans le présent, ou éventuellement dans ce qu'on pourrait mettre en place de performant pour le futur. Donc sur la notion de crise, oui, il y a une crise. Bien sûr, il y a toujours eu des crises, mais là, aujourd'hui, elle est vraiment systémique. Et ce qui me paraît important de noter, c'est qu'il y a une crise qui touche l'éducation nationale, et c'est pour des raisons idéologiques qu'on n'arrive pas, ou qu'on s'interdit d'avoir une chance de pouvoir y répondre. On a une crise aujourd'hui sur, par exemple, on peut prendre un point comme un autre, hein, sur la formation des maîtres. Hein, la formation disciplinaire des maîtres a beaucoup baissé en qualité. Au niveau de la pédagogie, bon, actuellement c'est quasiment inexistant, mais on espère que ça va se restaurer. On a une incapacité du système public, par exemple, à déceler les élites qui vont être capables de former les professeurs de demain. La plupart des professeurs à l'IUFM, je ne parle pas des domaines disciplinaires, comme par exemple l'histoire de l'éducation, c'est tout à fait légitime. Mais quand vous êtes professeur de didactique et que vous n'avez pas enseigné ou vous avez enseigné 3 ans il y a 40 ans, ce n'est pas légitime que vous soyez professeur de didactique. Nous, par exemple, dans notre Institut libre de formation des maîtres, on a un principe, c'est que tous les professeurs de pédagogie appliqués sont tous en poste. Donc sinon, ils n'ont pas le droit d'enseigner, pour être sûr qu'ils soient au contact de l'enseignement aujourd'hui. Donc, dans tous ces domaines, on a des problèmes très graves à résoudre et on voit une incapacité, on insiste à une incapacité terrible de l'État d'y faire face, souvent pour des raisons idéologiques qui, du coup, empêchent de prendre des solutions pédagogiques efficaces. Donc cette espèce de croisement bizarre entre l'idéologie et une approche proprement liée à l'objet, hein, qui est de comment on fait pour transmettre des connaissances, etc., fait qu'on n'arrive pas à s'en démêler. Et ça fait quand même plus de 30 ans qu'on voit bien que le niveau s'enfonce. Aujourd'hui, il y a pas si longtemps, il y a 10 ans, on pouvait encore se payer le luxe de le nier. Il y avait encore des gens pour expliquer que le niveau montait, que c'était simplement nos attentes qui étaient peut-être pas forcément justes. Maintenant, on peut penser ce qu'on veut des tests PISA de l'OCDE. Enfin, on voit qu'au moins d'une année sur l'autre, le niveau français se dégrade. Donc même si le test n'est pas forcément très valable, en tout cas en termes relatifs, il est intéressant. Vous savez, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, c'est pas compliqué, ça descend à chaque fois. Donc, sur la question de la crise et de l'État, voilà quelques petits éléments que j'ai pu peut-être ajouter. Après, vous avez dit, personne n'a jamais été opposé à la liberté de l'enseignement. Je peux pas partager cet optimisme. C'est clair que l'opposition est beaucoup plus forte sur la question du financement de cette liberté. Là, pour le coup, on est dans une zone d'extrême tension. Mais sur la question même de la liberté d'enseignement, ça a été variable. Et d'ailleurs, on le voit bien dans ce livre de M. Pousset, que je vous invite à lire, qui est très intéressant. On voit très bien qu'il y a eu une évolution des positions, et puis que petit à petit, les jeux se croisent. Si vous prenez même la période révolutionnaire, on a tendance à vouloir nous faire croire aujourd'hui que l'État a toujours été pour le monopole de lui-même sur l'éducation. Mais à l'époque révolutionnaire, il y a clairement plusieurs clans qui s'affrontent de manière totale et qui sont dans l'incompréhension les uns par rapport aux autres de manière vraiment très forte. La position qui m'est le plus naturellement proche, évidemment, celle de Condorcet. Condorcet qui expliquait qu'il était vraiment une nécessité pour la qualité de l'école publique, il était une nécessité d'avoir une concurrence privée. Et que c'était indispensable pour éviter que l'école publique ne se dégrade au niveau de la qualité de ce qu'elle propose et qu'elle le tourne aussi au sectarisme. Donc pour lui, c'était vraiment une condition sine qua non de qualité du public. Bon, ça, c'est pas ce qu'on entend en général le plus fréquemment dans la bouche des gens qui se recommandent ou se revendiquent des pères fondateurs de la République. De même, toutes les positions ont beaucoup évolué. Lorsqu'on lit bien sûr les textes de Jules Ferry, qui fait pas partie des gens les plus favorables à l'école libre, en tout cas, ou à la liberté des parents, ou au droit à la liberté éducative des parents. Quand on lit aujourd'hui la fameuse lettre aux instituteurs de Jules Ferry, qui est citée à l'envi, autant qu'on veut, donc c'est une lettre, si je me souviens bien, du 17 novembre 1883, je crois bien. Et donc cette lettre, on reconnaît que le professeur ne doit pas s'aventurer sur un terrain qui pourrait choquer ne serait-ce qu'un bon père de famille. Rien n'est plus sacré que la conscience de l'enfant. Toute cette délicatesse, ce respect de la dimension éducative et morale, on en est extrêmement loin aujourd'hui aussi. Donc, tous ces lignes-là se sont déplacées, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est lorsque la révolution puis ensuite l'Empire ont d'une part supprimé complètement les biens d'église, ensuite interdit les congrégations d'enseignement, puis expulsé les congrégations. Par définition, ça a désorganisé complètement les écoles libres, enfin, qu'on n'appelait pas libres à l'époque, mais enfin les écoles telles qu'elles existaient. Et ça les a forcées, ça les a conduites à devenir payantes, y compris celles qui n'avaient pas l'habitude de l'être, puisqu'elles n'avaient plus rien pour subvenir à leurs besoins. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des logiques de guerre, y compris par des bonnes idées. Par exemple, l'idée de donner l'enseignement primaire de manière gratuite pour l'école publique, c'est en soi une très bonne idée, sauf qu'elle a été conçue comme une machine de guerre contre l'enseignement privé qui ne pouvait pas suivre. Encore le primaire, ça pouvait encore aller, mais quand on a décidé de passer le secondaire gratuit, là, ça a été l'effondrement programmé du privé, qui n'avait aucun moyen de suivre. Donc, je pense que, franchement, on ne peut pas dire que personne n'a jamais été opposé à la liberté de l'enseignement. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, depuis au minimum la succession du règlement de Vichy, puisqu'à l'époque de Vichy, il y avait eu des modalités de financement du privé, et après, lorsqu'il y a eu le retour à la légalité républicaine, on ne savait pas très bien comment s'en dépatouiller. Parce que si on coupait directement les financements, les écoles fermaient, Et si on les reconduisait, ben c'était quand même de mauvais genre que de continuer de la même manière. Et donc, on a mis des années à trouver des solutions pour arriver à continuer à financer donc cette liberté scolaire. Donc, je suis bien d'accord avec vous que c'est là-dessus, sur la question du financement, que portent les tensions les plus fortes. Alors après, juste un petit exemple que vous donniez. Vous disiez, lorsque une entreprise fait des ordinateurs et qu'ils ne marchent pas, mais on ne reproche pas à l'entreprise. Et enfin, c'est comme ça, ça arrive. Et puis, bon. Alors, justement, je trouve que non, parce que lorsqu'une entreprise fait trop d'ordinateurs qui ne marchent pas, il se passe un phénomène très simple, c'est qu'elle ferme. Et c'est justement ça le problème de l'éducation payée par l'État, c'est qu'elle est déconnectée de deux phénomènes fondamentaux qui pourtant assurent à coup sûr l'efficacité d'un système. Le premier phénomène, le premier facteur fondamental, c'est qu'une offre doit répondre à une demande. Donc, au niveau démocratique, ce qui me paraît légitime, en termes même d'état de droit, en dehors de la question de la démocratie, ce qui me paraît légitime, c'est que l'offre scolaire réponde à la demande parentale, aux usagers de l'éducation, comme vous dites. L'offre scolaire n'est pas quelque chose qui doit être imposé par un État tout-puissant à des consommateurs ou des usagers ou des clients, quel que soit le mot provoquant qu'on peut choisir. En tout cas, les parents doivent pouvoir choisir l'éducation des enfants, sauf à considérer que c'est l'État qui est le premier éducateur. Et dans ce cas-là, ça a un nom. C'est l'optique totalitaire qui a sa cohérence, hein, mais en tout cas qui n'est pas celle de la démocratie. Donc ça, le premier facteur, c'est ça. Et le deuxième facteur, c'est que lorsque un produit, admettons, en utilisant ces termes barbares, mais c'est vous qui êtes entré sur ce terrain de la consommation en parlant de l'ordinateur, lorsqu'un produit est défaillant, eh bien justement, ce qui se passe, c'est que les gens ne veulent pas l'acheter et qu'ils peuvent partir ailleurs pour trouver un endroit où on produira des ordinateurs qui fonctionnent mieux. Or, tout le problème de l'éducation, c'est qu'elle ne respecte pas cette règle de base des systèmes qui leur permettent de fonctionner bien et d'être autorégulés, puisque, d'une part, elle impose la gratuité de son système et le fait d'être payant aux autres systèmes. Donc, elle crée une dissymétrie qui ne permet pas des arbitrages libres. Les gens sont bloqués par le manque d'argent. Deuxièmement, elle retient l'information. Vous savez très bien que s'il y a un grand tabou dans l'éducation nationale, c'est la notion des évaluations. On n'évalue pas. Première chose qu'a fait le ministre Payon en arrivant, il a supprimé les évaluations qui avait été laborieusement instauré par son prédécesseur, les évaluations de CE1 et de CM2. Donc, on n'évalue pas, et si jamais on évalue, on ne publie pas les résultats de manière générale au niveau des classes et des professeurs. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une mythologie, et cette mythologie, c'est que l'éducation nationale délivre en tout point du royaume, entre guillemets, la même éducation de la même qualité, et elle assure ce service public qui est une obligation constitutionnelle de l'État. Et donc, on ne va pas se mettre à reconnaître qu'il y a une extrême inégalité d'un établissement à l'autre. De ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que de nombreuses notes de la direction de la prévision du ministère d'Éducation ont été étouffées et que le rapport de la Cour des comptes, on en a vu la version abrégée, on ne l'a jamais vu en entier. Le rapport qui expliquait qu'en fait, d'un établissement à l'autre, public, il y avait des différences de financement incroyables d'un établissement par enfant d'un établissement à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, l'argument principal qui est de dire on a une école unique pour assurer une égalité au moins par le financement de ce qu'on donne à un enfant est complètement faux. Et on sait très bien que l'égalité en termes de qualité de l'enseignement donné est complètement faux également. Donc là, vous voyez, si on reprend la comparaison avec l'ordinateur, je pense que l'école se prive de deux leviers fondamentaux de vérification de son efficacité.
Alors, beaucoup de choses à son tour. Si on se centre sur la crise structurelle, oui ou non, qu'est-ce que vous en pensez? Et si oui ou si un peu, que répondre?
Effectivement, beaucoup de choses. On ne pardonnerait peut-être pas de répondre à tout. Il y a deux mots qui ont été oubliés dans les propos qui viennent tenus. Il y a le mot société. L'école n'est pas indépendante de la société. Or, nous sommes dans une société qui, en ce moment, a des valeurs contradictoires avec celles de l'école. Si vous voulez être la société demande que met au pinacle la valeur argent. Et nous qui passons notre temps à essayer de leur apprendre la patience, le long temps quand vous faites de la recherche, mais on devient ridicule. Mais qui proteste par rapport à cela? Qui proteste La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de chercher la meilleure école qui permettra à leur petit chéri d'avoir la meilleure profession, pas la plus intéressante, hein, celle qui sera la plus rentable. Il faut le savoir, l'école est victime de cela. Et c'est un point fondamental. Et ça, c'est une crise. Et oui, il faut l'accepter. Ou bien on ne se rend pas compte de cette réalité. Et puis, il n'y a plus de problème, effectivement. Ou on s'en rend compte et s'interroge sur ce qu'on fait. Alors, il ne faut pas non plus rendre l'école responsable de tous les problèmes de la société. Elle ne peut pas les assumer. C'est à nous aussi d'assumer notre part des problèmes que nous créons. Pas besoin de faire de discours sur la financiarisation, etc. C'est des réalités où on a une économie qui tourne, qui est complètement folle. Eh bien ça, c'est une réalité dans laquelle on est pris, qu'on le veuille ou non. Alors, je n'ai jamais dit que la crise impliquait, effectivement, je crois et je reste, je peux le montrer historiquement, mais je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là, ce n'est pas nouveau. Elle est différente, bien entendu, et ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, je n'ai jamais dit ça. Le mal-être des élèves. Moi, ce que je veux, c'est qu'on n'entre pas dans une situation où on accentuerait la crise, les difficultés du système scolaire, en le faisant éclater. Parce que le risque qu'on peut, qui est devant nous, c'est celui-ci. Vous avez peut-être lu hier un article dans Le Monde sur la situation des écoles publiques en Inde. Elles sont en train de se dissoudre totalement. Est-ce que c'est cela que nous voulons ? Eh bien, c'est une question qu'il faut examiner d'un peu près. Alors on dit qu'il y a le mal-être des élèves, il y a le décrochage massif, etc. Bien sûr, alors massif, n'exagérons rien. Moi j'ai regardé les chiffres, je ne vais pas vous infliger tout cela. On n'est pas dans les pays d'Europe où ça décroche le plus. Eh oui, c'est autour de 12, je crois. Au Portugal, c'est 25%. Bon, c'est pas, faut pas s'en féliciter, mais on n'est quand même pas, la situation n'est pas la situation catastrophique que certains veulent dire. Elle est difficile, mais il faut quand même reprendre les choses dans leur juste mesure pour éviter d'accentuer justement ce mouvement et de dire, ben oui, il faut créer partout des structures, etc., qui vont enfin permettre de rénover ce système qui n'en peut plus. Décrochage massif. C'est 150 000 d'après les... et pas 200 000. Commençons par être un peu rigoureux. Entre 120 et 150 000. C'est pas la même chose. Hein. Alors pourquoi ce décrochage est intolérable aujourd'hui ? Parce que vous ne vous êtes jamais interrogé sur le fait que hier, il existait encore plus ce décrochage. Mais il était intolérable pour personne. Quand vous aviez un élève sur deux qui ne pouvait pas passer le circuit d'études, c'était pas quoi ? C'était quoi, du décrochage ou pas, ça ? Sauf que hier, ces enfants-là trouvaient du boulot. Le problème, c'est pas du tout, c'est moins celui de l'école que celui que la société n'offre pas de travail. Et elle offre moins de travail aux gens qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas les compétences nécessaires parce qu'on n'a pas besoin d'eux aujourd'hui. C'est tout simple. Et c'est pas, on va pas faire de grand discours en disant on trouve du travail si on veut. C'est faux. Même des gens malheureusement diplômés ne trouvent pas de travail. C'est bien une réalité. Donc l'école et la société, on est dans, ça c'est à mon avis quelque chose de fondamental. Alors c'est vrai, l'enquête PISA dit des choses importantes. Enfin elle est dit. Mais moi je dirais pas qu'il faut revenir au passé. Il faut réfléchir aux moyens qui permettront d'améliorer la situation. Le passé, ce n'est pas l'orthographe telle qu'on l'a pratiquée il y a 50 ans avec les règles telles qu'on les apprenait simplement. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'il y a 50 ans, excusez-moi, il n'y avait pas Internet. Il faut aussi tenir compte de la réalité du monde d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas enfermer les enfants dans un monde qui n'existe plus, dans lequel vous n'êtes pas vous-même. C'est quand même quelque chose d'essentiel. Donc, ensuite, ça c'est mon travail en tant qu'historien, c'est très compliqué de comparer hier à aujourd'hui, parce qu'il y a très peu d'études qui ont été faites. On ne sait pas bien ce que savaient les enfants autrefois, parce qu'on n'a pas fait assez d'études sur cette question-là. Qu'est-ce qu'ils savaient en orthographe réellement ? Quelle était la grammaire qu'ils pratiquaient ? Bon, il y a quelqu'un d'important qui a fait tout un travail sur la grammaire pour montrer que la grammaire telle qu'elle était utilisée, c'est une grammaire pour l'école. Parce qu'autrefois, au XIXe siècle, un moment précis qu'on peut identifier dans le temps, on a décidé que l'orthographe allait être quelque chose de fondamental. C'est une décision politique. Il fallait une écriture à la française pour éviter l'écriture à l'anglaise. Excusez-moi, il faut rappeler quand même des choses élémentaires. Donc là, il y a quelque chose d'important. Alors, les choses peuvent évoluer. Peut-être qu'aujourd'hui, tout en, si vous êtes, vous avez déjà regardé des cahiers du 19e siècle, vous allez vous extasier tous devant l'écriture. Ah, autrefois, ils savaient bien écrire. Aujourd'hui, on ne sait plus écrire. Ben, ils écrivaient avec les moyens de l'époque. Aujourd'hui, on écrit avec d'autres moyens. On écrivait à la plume. Aujourd'hui, on écrit de plus en plus avec un ordinateur. C'est vrai. Alors, ça complique diablement les choses. Parce que ça veut dire qu'il faut maîtriser ces connaissances qui vont être diffusées. Et moi, en tant que chercheur, j'ai des étudiants qui ne comprennent pas pourquoi on passe tant de temps vers de la recherche, parce qu'il suffit de taper sur un bouton et vous avez la réponse. Qui n'est pas la bonne, mais ce n'est pas grave. Mais il y a une réponse. Et donc c'est là, c'est comme la télé il y a 30 ans. C'était dans le poste, donc c'est vrai. Ce qui m'amène à réfléchir, à renvoyer la question. Vous dites, l'école doit chercher la vérité. Oui, mais c'est quoi la vérité? Ah oui, mais c'est quoi? Elle ne peut pas être unique. Et non. Non, je ne crois pas. Elle ne peut pas être unique. Il y a des débats là-dessus. Il y a des différences d'approche. Et c'est la confrontation qui est là, qui peut être intéressante. Mais vous n'aurez pas une vérité unique. Ou alors, on arrive à mettre des gens dans ce que vous risquez, ce que vous ne vouliez pas, c'est-à-dire un truc totalitaire. Et oui. Il faut faire attention. Alors, dernier point, l'UFM. Ben, ça n'existe plus, je vous signale. Alors, vous pouvez sauter de joie et célébrer. Et vous avez... Oui, disons, mais vous avez beaucoup protesté contre la suppression du fonctionnement des UFM il y a 2 ou 3 ans. Il y a 4 ans exactement, lorsqu'on a supprimé tout ce qui était formation sur le terrain, etc. J'ai pas entendu, j'ai pas vu de grandes manifestations là-dessus. Ah non ? Personne s'en est rendu compte, sauf les... enseignants. Alors c'est vrai, à l'UFM, il a beaucoup de retard, il y a des enseignants comme moi, par exemple, qui n'avaient jamais enseigné en maternelle, hein, et qui a quand même dû aller regarder ce qui s'y passait. J'ai dû enseigner avec des élèves qui préparaient l'école élémentaire. L'école élémentaire, ça faisait un peu loin, c'est vrai. Alors j'enseignais à ma décharge l'histoire de l'éducation, donc c'était moins grave. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus au niveau, qui sont décalés, etc. Mais je pense qu'ailleurs, ça ne doit pas être mal non plus. Il faudrait faire aussi le ménage à l'université. Suis-je encore au niveau? J'en sais rien. Mais ça veut dire aussi une chose importante. C'est que derrière ça, il y a un point que l'UFM avait quand même réussi à faire. Et qu'on lui a interdit de continuer à le faire. Et maintenant, théoriquement, les SP devraient, si on leur laisse le temps de vivre, pouvoir le faire. C'est que enseigner, c'est un métier et pas une vocation. Un métier, ça veut dire ça s'apprend. Vous êtes allé à l'ENA pour devenir haut fonctionnaire et puis finalement, vous êtes devenu diplomate, ben vous avez appris votre métier. Enseigner, ben non, ça ne s'apprenait pas. Moi, quand je suis devenu professeur dans le second degré, on m'a donné un livre, débrouille-toi. Eh bien, ça a raté au début. Hein. Et mon métier, je l'ai appris comment? Parce que je faisais partie d'associations. Donc je savais comment interagir avec des jeunes. Mais jamais on ne l'a appris à l'époque. Ah, c'était merveilleux, aucune formation. L'UFM avait au moins le mérite d'essayer avec un tas de bricolage, un tas de problèmes, on est bien d'accord, il y a eu des choses, des dérives, etc. Mais on ne leur a pas laissé la possibilité de faire vraiment leur travail et donner les moyens de faire le travail. Il faut aussi savoir ça. Alors maintenant, donnons la chance à ces institutions nouvelles de pouvoir faire en sorte que le métier s'apprenne. Et apprendre le métier, ça veut dire quoi? La formation. Personne ne nie qu'il faut une formation intellectuelle solide. Qu'il faut connaître l'orthographe, la grammaire, l'histoire, la géographie, la philo, et j'en passe, et des meilleurs. Si vous auriez peut-être du mal, les uns et les autres, à être professeur des écoles aujourd'hui. Ça demande beaucoup de compétences. Mais ça en demande d'autres aussi, qui ne sont pas seulement celles de savoir, des savoirs. Ça demande aussi être capable de comprendre des jeunes. Ça demande... d'être capable d'entrer en interaction. Ça demande d'être capable de comprendre dans quelle société ils vivent, qui sont-ils, quelles sont les difficultés qu'ils vont rencontrer. Certains enseignants disent, moi, tous ces problèmes-là ne me concernent pas, je fais mon cours, je distribue mon savoir du haut de mon Olympe, j'ai la vérité infuse, et cette vérité, eh bien, ils la recevront. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes dans un monde où, en face de vous, vous avez des gens beaucoup plus cultivés. Alors ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Les gens aujourd'hui sont plus cultivés, mais autrement cultivés qu'ils n'y étaient il y a 100 ans. Certes, aujourd'hui, on sait beaucoup moins le latin, ça, j'en conviens avec vous, et beaucoup moins le grec. Mais on sait bien plus d'autres choses. Et on a les moyens intellectuels de savoir d'autres choses. On ne peut pas demander au XXIe siècle, la situation du XXIe siècle, de faire la même chose qu'au début du XXe siècle. C'est normal que les choses soient différentes. Simplement, il faut être exigeant, et l'exigence, on la maintient, il faut qu'elle soit maintenue. Et je pense qu'elle est maintenue. Il faut surtout, moi je crois, plutôt que dédire le système, on essaie de le faire éclater par tous les moyens, soutenons et encourageons ces enseignants qui essaient d'innover. Alors vous dites qu'une offre doit répondre à une demande. Pas seulement. L'État a une responsabilité, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on aurait fermé toutes les filières littéraires. Les parents auraient dit, pas question, ça ne mène à rien. Non, il en reste 10-11%. Si. Ah, mais si vous voulez, c'est pas uniquement latin grec et là. Bien sûr. Mais il n'empêche que ça existe encore. Il y a un tas de choses qui disparaîtraient. Il y a des disciplines qui n'existeraient plus. Et la tâche de l'État, c'est de dire il y a des choses qui doivent être maintenues parce que c'est nécessaire, que ça vous plaise ou non. Et même si vous n'avez pas envie que vos petits chéris. Parce qu'ils ne gagneront pas beaucoup d'argent en étant prof de grec. Hein. Et puis, ce n'est pas très marrant d'être prof de grec. Eh bien, il y a cette possibilité-là qu'il faut maintenir. Donc, l'offre ne peut pas simplement répondre à une demande. Je pense qu'il y a forcément aussi une offre. Parce qu'en plus, il y a une distance. L'école, moi, je crois fondamentalement à la vertu de distance de l'école par rapport à la famille. Je crois que l'école doit faire en sorte que les enfants ne se retrouvent pas dans leur famille, justement. C'est ça qui est important. Ils ne vont pas à l'école pour aller dans leur famille. Sans ça, qu'ils fassent l'école à la maison, c'est possible. Mais majoritairement, les gens ont compris, parce que, et on revient au mot de début, l'école, ça apprend à faire société. Alors, ce n'est pas facile, mais c'est essentiel.
Merci. Alors, une réponse brève, si possible.
Je vais essayer de faire bref. C'est dommage, il y a plein de points très intéressants. Je vais peut-être prendre à l'envers. Sur la vertu de distance de l'école par rapport à la famille, alors j'ai commis un texte dans Figaro Vox il y a quelques jours justement là-dessus, en disant que l'école était ni un prolongement, ni une annexe des familles, ni une annexe de l'État. Et donc effectivement, l'école a pour vocation d'introduire l'enfant dans la société en lui donnant une première communauté dans laquelle il va s'entraîner à exercer des vertus qui sont des vertus de responsabilité, de service, d'apprentissage, d'amour d'une première communauté qui est l'école. Alors, je tiens beaucoup à ce terme de communauté qui vient des Britanniques, qui vient aussi de la tradition catholique. Donc là-dessus, il n'y a pas d'opposition. Simplement, quand vous dites l'offre ne peut pas être simplement une réponse à une demande, c'est vrai que l'État doit pouvoir obliger à un certain nombre de choses que les familles ne demanderaient pas, c'est vrai. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État impose des choses qui sont, excusez-moi du mot, mais complètement hors de propos parce qu'il les impose sur un terrain qui est à la fois un terrain de raréfaction de cette pluralité importante. Par exemple, l'État a complètement cassé les filières littéraires. Il n'y a pas d'autre nom. Pour essayer de faire du latin, du grec, il faut toujours vous le lever matin. Pour faire du français qui ne soit pas complètement mort sur pattes, un corps mort, désossé, à coup de formalisme étriqué, vous pouvez vous lever matin. On a chassé le sens, on a chassé les grands textes. On se retrouve avec la littérature mal traduite à thèse. Donc il y a des choix qui ont été faits par l'État qui sont vraiment absolument dramatiques. Et maintenant, l'État se met en bille en tête d'être un rééducateur des familles. Et alors, là, pour le coup, c'est vraiment pas ce qu'on lui demande du tout. Donc on aimerait bien que l'État s'occupe effectivement d'imposer parfois aux familles de veiller à l'intérêt de long terme, l'intérêt intellectuel aussi de leurs enfants, de ne pas être utilitariste. Ça, c'est vrai que c'est un danger que peut avoir la famille. C'est aussi un danger si on donne le pouvoir aux entreprises qui peuvent être utilitaristes. Donc l'État doit lutter contre ça, doit viser le long terme et savoir que si on donne une vraie culture générale exigeante aux enfants, eh bien ils auront la capacité d'être après de bons citoyens, de bons agents économiques, tout ce qu'on veut, mais de manière libre. Donc là-dessus, on est d'accord. Mais si l'offre ne doit pas être simplement une réponse à la demande familiale, il faut quand même qu'on en tienne compte un minimum, parce que là encore, qui est légitime? Et qui c'est l'État? Quand on dit l'État, qui c'est au bout du bout, l'État? Qu'est-ce que ces quelques inspecteurs généraux, donc vous ne cachiez pas le fait qu'en général, ce sont surtout les professeurs dont on ne sait pas trop quoi faire qui montent à l'inspection générale, ou en tout cas ça peut arriver, n'est-ce pas ? Vous l'avez dit, hein ? Donc en tout cas, qui sait ? C'est pas évident. Ah ben vous l'avez dit. Alors en tout cas, dernier point, bon, le sujet qui nous intéresse le plus, je pense, est savoir si la solution pour éveiller le système, c'est de démembrer et de créer des choses à côté. Hein, vous, démembrer, ça c'est votre propos, enfin, vous l'avez baptisé comme ça, éclater, je crois que vous avez dit. C'est pas du tout notre optique c'est de stimuler l'extérieur. Donc ça, je pense qu'on pourrait essayer de débattre de ça, puisque c'est quand même un peu l'objet. Mais vous avez pris l'exemple de l'Inde. Alors il se trouve que je viens d'interroger un think tank indien sur la question de l'école, sur l'état de Bihar. Et en Inde, l'école publique est absolument entrée en déliquescence quasi totale. Un taux d'absence à peu près de 35% des professeurs, une corruption éhontée. Et quel est le seul moyen aujourd'hui qui se passe ? Et le seul moyen de réaction ? Que font les gens, y compris les plus pauvres ? Eh bien, ils créent des écoles privées, indépendantes, qui sont en général complètement clandestines. Il y a une loi qui a essayé d'être passée pour les interdire. Et tout le monde s'est dressé en disant quand même, le peuple se prend en main, finance des professeurs pour donner malgré tout une instruction à ses enfants. Et qu'est-ce qu'on trouve de plus urgent à faire ? C'est d'interdire ces écoles. Donc en tout cas, ce que je vois, c'est que quand il y a, au niveau universel, un véritable blocage d'un système, la société justement, parce qu'on parlait de la société réagit en créant des systèmes de contournement, des systèmes de survie, qui n'ont pas vocation à remplacer une école, système public dans son ensemble. On n'a pas vocation, par exemple, à remplacer l'éducation nationale ou à remplacer un monopole par un autre, par exemple. Ça n'a jamais été l'idée de qui que ce soit. Par contre, l'idée de stimuler de l'extérieur, d'aiguillonner, de pousser à la remise en question, à la remise en cause, en montrant ce qu'on peut faire dans un contexte complètement responsabilisant, et qu'il y a cette dureté de la responsabilité, parce que lorsque votre école n'est pas satisfaisante, lorsqu'elle ne produit pas des élites, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle est délaissée par les parents et par les familles. C'est ça quand même qui rend la chose extrêmement saine. Et un des points justement qu'on peut parfois pointer comme un danger potentiel, c'est la question du communautarisme pour les écoles complètement indépendantes, mais justement, il me paraît déterminant de considérer une chose qui me semble importante, c'est que lorsque des écoles se créent, des écoles complètement libres, le premier mouvement, c'est un mouvement général de rassemblement de gens qui se ressemblent. C'est naturel. C'est comme ça que se crée la plupart des choses. Quand vous créez une entreprise, quand vous créez n'importe quoi, vous vous mettez avec des gens qui vous ressemblent, qui partagent des idées. Et ensuite, il y a deux possibilités. Soit l'école arrive à avoir un vrai niveau intellectuel, une vraie excellence académique. Et dans ce cas-là, elle attire à elle les meilleurs de quelques horizons que ce soit. Soit elle reste une gentille affaire familiale un peu branlante, et dans ce cas-là, elle peut évoluer dans une espèce de repli communautariste, mais en général, elle meurt de sa belle mort, parce que les parents sont quand même pas fous. Les parents ont des défauts peut-être, mais en général, ils ont conscience de ce qui est favorable à leur enfant et ce qui l'est pas. Ils peuvent se tromper 1 an, 2 ans, mais pas tellement plus longtemps. Donc moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas à travers certaines expériences d'écoles qu'on aide, comme l'école pilote de Montfermeil dans le 9-3, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, lorsqu'on avait une véritable recherche d'excellence académique, et cette excellence académique était reconnue, d'ailleurs, la qualité du travail académique qui opérait est reconnue, y compris par l'inspection académique, eh bien, il y avait une capacité d'attraction de gens extrêmement variés. Autrement dit, la meilleure prévention du communautarisme, qui peut être un danger des écoles complètement libres, c'est évident, c'est l'excellence académique. Donc plus on sera tourné vers cette excellence académique, et plus on sera immunisé contre cette difficulté qui est inhérente à la liberté.
Alors, Anne Goffinier vient de répondre à ce que je souhaitais être la dernière question, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre comme stimulation réciproque des divers systèmes d'enseignement, en répondant peut-être de manière un peu unilatérale que ce sont les écoles hors contrat qui ont à stimuler les autres, mais peut-être qu'il y a une réciproque qui est vraie. Est-ce que vous pourriez compléter cette analyse de votre côté ?
Oui, j'ai fort apprécié ce qui vient d'être dit, parce que je ne suis pas du tout d'accord. Mais ça met au moins clairement les dés sur le tapis. C'est l'école pour les meilleurs. Là, moi, je ne veux pas l'école pour les meilleurs. Il n'y a pas de problème pour les meilleurs en France. C'est ce que j'ai compris. La question de l'excellence, etc. Ben, la question, c'est pas la question est de savoir si c'est l'excellence pour quelques-uns ou l'excellence pour tous. La question, c'est l'excellence pour tous. et l'excellence pour tous, peut-être que je peux continuer. L'excellence pour tous, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre les moyens, et c'est bien plus compliqué de le faire pour des millions d'élèves que pour quelques-uns. Ça veut dire essayer de trouver des solutions qui permettent aujourd'hui d'aboutir à ce que vous pointiez tout à l'heure, l'égalité. C'est vrai que l'égalité n'existe pas. Il y a des écoles bonnes et des, entre guillemets, évidemment, et d'autres mauvaises. Il y en a, et vous le savez très bien, il n'y a pas besoin d'avoir de palmarès. Les parents un peu informés savent où il faut aller, parce que machin, c'est un instituteur complètement barjot. Si je vais là, je suis sûr que ça ne va pas aller. Vous avez déjà entendu parler des promenades, ce qu'on appelle le zapping, comme disait Gabriel Languette, d'un système à l'autre. Ça existe, et les parents savent très bien comment ça se passe. Alors, il y en a qui le savent mieux que d'autres, effectivement, et qui sont mieux informés que d'autres. La question de notre système aujourd'hui, l'égalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est pas l'égalité qu'il faut, c'est l'inégalité. Il y a des endroits où il faut donner plus de moyens. C'est donc la justice, ou l'équité, comme disait Aristote. Il faut donner plus de moyens à certaines écoles. Il y a un rapport qui avait été fait, qui lui a finalement été publié, de Bernard Toutlemonde, inspecteur général, et qui n'était pas un inspecteur planqué. Cet inspecteur général avait montré qu'on donnait plus de moyens à Paris qu'à la Seine-Saint-Denis. Alors que vous savez très bien que c'est en Seine-Saint-Denis qu'il y a le plus gros problème, et c'est là où il faudrait mettre les enseignants les meilleurs et donner des moyens plus importants. Comment on a dévoyé les ZEP? Les ZEP, c'est 20 ou 30%, parce qu'on n'a pas le courage de dire il y a des endroits où c'est difficile. Et il faut donner des moyens parce que c'est difficile. Et plus de moyens qu'à d'autres endroits où c'est facile. Excusez-moi, il y a des endroits, faire cours, c'est pas très compliqué. Et vous pouvez même être un très mauvais prof, du point de vue pédagogique, si vous avez les compétences suffisantes, vous en sortirez. Parce qu'en face de vous, vous avez un auditoire qui est habitué, qui sait ce que c'est que la culture traditionnelle, etc. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'enfants. Et c'est ces passerelles que les enseignants doivent pouvoir créer. Et dans un certain nombre de cas, il faudrait beaucoup moins d'élèves. Dans d'autres, ça ne pose aucun problème. Mais au nom de l'égalité, défendue par un certain nombre de groupes de pression qui n'ont aucune envie, je vous rappelle une chose. Lorsqu'on a créé, on a lancé le début du collège unique, qui n'est toujours pas unique, le président de la République, à l'époque, voulait qu'il y ait des groupes de, je ne sais plus comment on appelait le mot, de rattrapage, des choses comme ça, pour les élèves qui avaient des problèmes particuliers. Eh bien, un certain nombre des parents nombreux sont montés au créneau qui ont dit « Ah, mais c'est pas normal, mes enfants ont le droit au même nombre d'heures que les autres, et donc on va faire des cours d'approfondissement. Comme ça, ils sont encore plus en avance que les autres. Le problème qu'il faut, c'est faire en sorte, et c'est tout le pari, pour l'instant, totalement pas encore mis en place, hein, du fameux socle commun. Le socle commun, c'était de quoi faire? L'idée que tous les élèves en sortant de troisième devaient atteindre un niveau minimal. Alors minimal, évidemment, certains vont dire c'est SMIC, mais le SMIC, c'est déjà pas mal. Ça permet au moins d'être sûr que tous les enfants sachent lire et écrire, par exemple, etc. Et qu'on s'en donne les moyens, on sait tous, les enseignants savent tout, comment faire. Il y a toutes les techniques pédagogiques pour parvenir à le faire. Simplement, ça demande de l'argent, ça demande du temps, et il faut décider de le faire. Certains le font, c'est plus facile de permettre de faire en sorte que des élèves fassent centrale, etc., etc., ou fassent ce que j'ai fait. C'est bien plus facile. Moi, un mauvais prof ne me gênait pas. Je n'avais pas besoin d'un bon prof. Il y a des élèves qui ont besoin d'un bon professeur. Et tant qu'on ne le comprendra pas, et tant qu'on ne mettra pas les moyens, on pourra tenir tous les discours qu'on veut. Et après tout, dans ce cas, l'école publique et l'école sous contrat remplissent bien leur fonction, qui est de faire échouer une partie des élèves. De quoi se plaint-on? Et oui, de quoi se plaint-on? On a ce qu'on veut. Ou est-ce qu'on veut que tous les enfants réussissent mieux et à un niveau suffisant, plus complet, parce que dans une société de plus en plus complexe? Qu'est-ce qu'on veut faire? On a le choix. Alors on peut faire une sélection et on laisse, et ça c'est un choix qui peut être fait, et on laisse des gens sur le carreau. C'est un choix. un choix de société. Et là, ce n'est pas un problème d'offre et demande, c'est le choix de l'État. Que décide l'État par rapport à cela? Et quand vous dites « l'État ne publiait pas les rapports sur les... » Bien sûr, moi j'étais le premier furieux, je connaissais, d'autant que j'avais des collègues chercheurs qui avaient rédigé ces rapports, on était furieux. Mais parce que l'État ne le souhaitait pas. Parce que ça montrait justement les inégalités existantes et qu'une partie des gens dans la société ne souhaitent pas qu'on le dise. Parce qu'ils ont tout intérêt à ce que ça se maintienne comme ça. Alors ça, il faut le savoir aussi. Alors effectivement, les écoles auxquelles peuvent être un aiguillon, moi je ne suis pas contre, hein, ça existe, il y a la liberté de machin, d'enseignement, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des écoles de ce type-là. Simplement, il faut savoir ce qu'il y a derrière, ce qu'elles vont permettre, est-ce qu'elles vont vraiment permettre de transformer les choses, j'en suis moins sûr. C'est ça mon inquiétude. Si c'était vraiment des écoles pédagogiquement novatrices, mais quand on dit on va faire la pédagogie traditionnelle, par exemple, excusez-moi, mais c'est totalement inadapté. Sauf si vous êtes enfermé dans un univers clos. Évidemment, la clôture, c'est le meilleur moyen de ne pas entrer dans une société beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. Ça, c'est notre réalité. Maintenant, la stimulation. Alors la stimulation, elle peut venir de ce type d'école, mais il y en a, ce que j'ai vu, une partie d'entre elles, à mon avis, m'interroge beaucoup. D'autres peuvent effectivement stimuler, notamment tout ce qui est le courant de l'école nouvelle. Moi, j'ai participé à un jury de thèse où on avait des gens qui avaient fait une école nouvelle et on voyait un certain nombre de choses intéressantes, mais ça s'est aussi diffusé dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé. Et là, il y a quand même des choses qui pourraient être importantes. Mais cette stimulation peut venir et vient déjà à l'intérieur du système éducatif. Privé, public, vous avez des gens qui provoquent. Il y a une... Mais soutenez ces enseignants plutôt que de dire l'inverse. Il y a une capacité d'invention que vous n'imaginez pas et de gens qui ne sont jamais récompensés. Il faut les soutenir.
Alors, merci beaucoup. On va prendre un temps, 20 minutes donc, qui nous reste pour un échange avec la salle. Alors, on a fait passer des papiers sur lesquels vous pouvez inscrire vos questions. Je vais en lire une première qui, en fait, prolonge ce que vous étiez en train de dire, qui vous est plus spécialement adressée, je crois. Quel dispositif imaginez-vous pour éviter que les écoles libres, qui sont dans l'excellence, pas toutes d'ailleurs, mais celles qui excellent dans l'excellence, dit la question académique, ne deviennent pas des clubs d'élite. En effet, si les places sont limitées, c'est dans l'intérêt de ce type d'école de ne prendre que les bons élèves, et etc. Que faire contre un élitisme formel où, en quelque sorte, l'élève devient au service des résultats de l'établissement. Donc c'était pour Anne Coffinier.
Je crois qu'il faut déjà, sur cette histoire d'élitisme, il faut déjà un peu définir les choses. Il y a un élitisme d'exigence, quelle que soit la nature des élèves qui sont devant soi, et puis il y a un élitisme dans le recrutement. Et après, dans l'élitisme, il y a l'élitisme intellectuel et l'élitisme social. Donc, si on parle de la question, par exemple, de certains établissements privés sous contrat, ou publics d'ailleurs, parce que bon, moi qui ai fait Louis le Grand, je peux vous garantir qu'il y a une belle sélection à l'entrée. Voilà, donc j'arrivais de mon école publique de Manosque et j'étais prise à Louis le Grand, donc ils sélectionnaient sur toute la France. Donc tout ça pour dire qu'il y avait un élitisme qui était dans le recrutement. Alors évidemment, ils avaient beau jeu après d'avoir des résultats à la sortie, ils essayaient de ratisser les meilleurs de toute la France. Ça, c'est une forme d'élitisme. Cet élitisme-là, de mon point de vue, n'est pas indu. Ça correspond à essayer de faire, des meilleurs et les tirer le plus haut possible pour avoir des élites dont le pays a besoin. Ça se fait d'ailleurs dans tous les pays soviétiques. Vous êtes au courant que dans les pays soviétiques, il y avait des écoles qui étaient extrêmement élitistes. C'est-à-dire qu'on prenait les meilleurs à tous les niveaux et de manière un petit peu forcée, on les faisait travailler pour qu'ils deviennent excellents. Ça me paraît indispensable. Et ce refus de l'élitisme en soi, le refus de créer des élites de manière consciente, ça me paraît suicidaire pour une nation. Ensuite, c'est évident que l'idée assumée de créer des élites ne nous dispense aucunement de s'occuper de ceux qui seraient, entre guillemets, moins doués scolairement. D'abord parce que le fait d'être bon scolairement, c'est pas la seule forme d'intelligence, loin de là. Et deuxièmement, parce qu'il faut s'occuper de tous, et de manière très exigeante. Et pour le coup, très élitiste, en ce sens, essayer de tirer chacun le plus haut possible par rapport à ses propres capacités. Ce qui veut dire aussi de les reconnaître. Tout à l'heure, on parlait du décrochage scolaire. Je ne pense pas qu'on puisse comparer avant et après la massification, et notamment avant et après la loi qui oblige les études jusqu'à 16 ans. Parce que quand on dévalue l'apprentissage, on dévalue les filières techniques, forcément tout le monde se retrouve plus ou moins compressé dans le collège-lycée unique. On en arrive au collège-lycée unique. Et il y a plein de gens qui se désolent et qui se dévalorisent, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans une filière qui leur convient. Donc il y a du décrochage, et ce décrochage, il pourrait très bien être évité si on reconnaissait la variété des talents et la variété des aspirations des gens. Et là, il y a un vrai problème idéologique, on voudrait que tout le monde aspire à la même chose, et c'est faux. Donc, sur cette histoire d'élitisme, j'ai essayé de clarifier l'élitisme, en tout cas au niveau du recrutement. Maintenant, il me semble qu'il faut qu'on soit ambitieux intellectuellement pour tout le monde, pas forcément selon le même formalisme académique. Il y a des enfants qui sont complètement inadaptés au formalisme académique, et alors ? Moi, j'étais très frappée quand même. Je vis en Grande-Bretagne, pour ceux qui ne le savent pas, je ne vis pas en France. Et mes enfants ont été scolarisés plusieurs années en Grande-Bretagne. J'étais quand même frappée par l'ouverture qu'ils ont aux autres formes d'intelligence, aux formes d'intelligence sociale, aux formes d'intelligence aussi de leadership, de prise de responsabilité, de capacité pragmatique à développer des projets, de capacité à agir de manière solidaire et effective, donc par exemple dans le sport, dans l'humanitaire, tout ça est valorisé dans le parcours. Et tout ça, ce sont des capacités qui ne sont pas du tout inintéressantes à condition qu'elles soient bien faites, de manière exigeante. Et en Grande-Bretagne, c'est exigeant. Ils ont la même exigence pour le foot ou le rugby qu'ils ont pour les maths. Alors que nous, ça tourne à l'éveil patronage, notre affaire. Tout de suite, c'est plus du tout exigeant. Donc cette exigence intellectuelle, cette exigence de capacité, de qualité, on doit l'avoir dans tous les domaines. C'est comme ça qu'on créera des élites. Moi, je dis à mes propres enfants, faites absolument les études que vous voulez, faites-en ou n'en faites pas, ça ne m'importe pas du tout. Maintenant, la voie que vous aurez trouvée, essayez d'être le meilleur de vous-même dans cette voie-là, et si possible, les meilleurs tout court. Vous êtes le meilleur des plombiers, ça me va très bien. Je préfère le meilleur des plombiers qu'un professeur qui, par exemple, est complètement démoralisé ou qui se laisse aller à ne pas travailler. Donc, si les professeurs, ce en quoi je les incite aussi beaucoup, eh bien, qu'ils le soient en travaillant et en étant complètement sur le pont à chaque instant pour l'intérêt de leurs élèves. Donc, sur cette histoire d'élitisme, la question était un peu compliquée à comprendre, si je me comprends bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour éviter que les écoles, en fait, ne soient réservées à un club d'élite? Eh bien, c'est tout simplement de les multiplier. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a des endroits... par exemple, vous prenez Stanislas à Paris, je connais moins la situation ici... Eh bien, ils recrutent, ils sélectionnent niveau par niveau, ils écrèment. Donc, ils écrèment pas trop au primaire, un peu plus au collège, et puis arrivé au lycée, c'est la course à l'échalote, et à la fin, il y a quelques survivants, et forcément, ils ont 100% de résultats. Et entre-temps, ils virent tout le reste sans spécialement prévenir les parents à l'avance. Moi, pour moi, c'est une attitude qui est inacceptable. Voilà, c'est inacceptable parce que c'est pas une manière de créer des élites, c'est une manière d'avoir un bon point reconnu socialement par la société. Donc ça, c'est très simple. La solution, elle est pratiquée par les écoles hors contrat. Tous les enfants qui sont à bord et qui respectent l'esprit de l'école et qui travaillent avec bonne volonté sont maintenus jusqu'au bout. Voilà, c'est la règle d'or et c'est simple à appliquer.